Quelle France dans 10, 20, 50 ans? Nous avons auditionné plus de 400 personnalités parmi les plus qualifiées du pays et dans tous les domaines. L'heure est à une mobilisation générale pour éviter le pire et construire le meilleur. Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes sous la direction de Jacques Attali aux éditions Fayard.
L'envie est évidemment la plus basse des passions humaines et débouche évidemment sur la haine, passion formidable qui naît de cette vésicule biliaire symbolique de l'envie, d'un poison.
Philippe Solers, écrivain.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, notre thème d'aujourd'hui va nous conduire jusqu'à l'Ancien Testament et il pourrait certainement le faire plus loin en arrière sans qu'il risque de perdre jamais de son actualité. Nous allons parler de l'envie dévorante, du rôle social de l'envie. Pourquoi cette curiosité? Eh bien parce qu'un historien reconnu, qui est devant moi, vient de s'en emparer au fil d'un livre précieux qui s'étend dans la longue durée. André Rauche, professeur émérite à l'université de Strasbourg, s'est attaché déjà dans d'autres ouvrages à d'autres péchés, notamment à la luxure et à la paresse. Je ne compte pas lui demander, je suis trop courtois pour cela, de scruter les ressorts intimes qui peuvent le conduire à ses curiosités spécifiques. Mais bien l'interroger sur la manière dont il voit que les moments successifs de notre civilisation ont considéré l'envie de façon fort variable. La condamnation des pères de l'Église fut implacable, en y cherchant de texte en prêche une cause majeure des malheurs de l'humanité depuis la chute du paradis terrestre. Plus tard, les poètes, les moralistes, les dramaturges en ont scruté et dépeint de multiples manières, à la cour et à la ville, les manifestations et les conséquences, plus ou moins néfastes, sur les comportements individuels et les équilibres collectifs. En attendant qu'au XVIIIe siècle, des voix s'élèvent pour trouver paradoxalement dans l'envie une source de prospérité. Quant au XIXe, la littérature y offre une profusion d'exemples impressionnants, nourrissant les œuvres les plus prestigieuses, celles qui cheminent dans nos mémoires et qui nous conduisent tout droit jusqu'aujourd'hui. Je vous l'annonce en effet sans détour, l'envie, au cœur de toutes les frustrations que perpétuent les heurts et les malheurs du principe fondateur de l'égalité des citoyens, l'envie n'a pas du tout, dans notre société, disparu. Et pour commencer, Marcel Aimé, l'envie telle qu'il l'incarne, en forme d'une allégorie assez impressionnante.
L'envie sortit lentement de son antre obscur. Tout d'abord, on ne vit d'elle qu'une énorme tête en forme de casque, faite d'une substance dure et cornée. Entre la visière du casque et la mentonnière béait un trou noir au fond duquel brillaient deux yeux d'or vert. Dardé de ses secrètes profondeurs, le regard de l'envie semblait adhérer à l'objet auquel il s'arrêtait. Parfois, la visière du casque se rabattait silencieusement et éteignait l'éclat des phosphorescences jumelles. La bête avançait prudemment, la gueule au ras du sol, entre ses grosses mains écailleuses sur lesquelles s'appuyait l'avant-train. Ayant ainsi fait une dizaine de pas, elle se redressa d'un mouvement souple. Son corps était articulé au-dessous des épaules, de sorte que le buste maintenait sans effort apparent la position debout. Ce buste, qui avait forme humaine, était en partie protégé par des plaques de cornes, et partout où elle apparaissait, la peau était couverte de pustules qui sécrétaient des humeurs jaunâtres. Le reste du corps, sur lequel la bête prenait son assiette, était d'un gros crocodile noir et ventru, se mouvant avec agilité sur six paires de pattes. Fiers de notre champion, nous faisions des vœux pour sa victoire, mais à voir les proportions de l'animal, la puissance de son poitrail et de ses bras, son aisance à se déplacer, il semblait impossible que le pasteur triomphât. Le début du combat ne fit que vérifier nos craintes. Et volant autour du pasteur avec une rapidité qui le déconcertait, l'envie se trouva plusieurs fois en situation de lui porter un coup mortel. Il ne dut son salut qu'à sa maladresse même, si invraisemblable que l'adversaire y flaira un piège et se réserva pour une occasion plus sûre. Cette occasion ne tarda guère à se présenter et l'envie était en bonne position de frapper par derrière lorsque la plus jeune des filles du pasteur, qui avait l'esprit aussi bien fait que la poitrine, s'écria « C'est moi la plus belle créature du monde !» Aussitôt, l'envie se tourna vers nous et ses yeux d'or vert flambèrent au fond du casque. « Il n'y a pas de créature plus belle que moi !» insista l'orgueilleuse. Dardant sur elle un regard chargé d'anxieuse envie, la bête oublia le combat et laissa le pasteur lui couper le cou tranquillement. Un liquide jaune et visqueux s'échappa de la blessure.
André Rouge, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Je vous ai proposé un extrait de La Fosse aux Pêchers de Marcel Aimé, qui remonte à 1946, qui est lu ici par Marcel Errant à la RTF, le 25 février 1951. Il m'a semblé que, en forme d'allégorie, on trouvait là rassemblé un certain nombre des thèmes qui vont nous faire nous rejoindre ce matin.
À vrai dire, Jean-Noël Jeannet, c'est pas certains des thèmes, c'est pratiquement tous les thèmes qui sont présents.
À la bonne heure.
C'est-à-dire que déjà chez les pères du désert, je pense en particulier à Évagre Le Plontique, en 394, lorsqu'il écrit à un de ses amis, il donne à peu près toutes les indications que on retrouve dans le texte de Marcel Aimé. Tout d'abord, l'envie, elle surgit de l'obscurité. Là où Dieu aime la lumière, l'envie aime le noir, l'obscur. Ensuite, il nous signale que cette envie, elle ne se présente pas telle que. Elle se présente avec un casque. Autrement dit, elle se dissimule derrière ce casque, elle se protège. Et deux choses très importantes qui sont soulignées par Michel Pastoureau dans son livre sur le jaune. L'envie a les yeux verts, d'une part, et d'autre part, elle est vêtue de jaune.
Il y a un chromatisme de l'envie ?
Il y a un chromatisme de l'envie qui est aussi un chromatisme démoniaque, c'est-à-dire que les divinités du mal, donc Satan, pour l'indiquer, pour la signaler, sont vêtues de vert et de jaune. C'est d'ailleurs l'image qu'il y a sur le livre que vous avez bien voulu regarder. L'allégorie qui est présentée, c'est une vieille femme. Vieille, cela signifie qu'elle a perdu la jeunesse. Et d'autre part, elle est vêtue de vert et de jaune, car ce sont les couleurs démoniaques. Alors, le jaune est plutôt réservé au XIIIe, XIVe siècle, aux félons, à ceux qui sont des traîtres, des trompeurs.
Ne courez pas trop vite, André Roche, avant de rejoindre vos pères de l'Église, qui sont souvent d'ailleurs des pères du désert. Je voudrais que vous vidiez une querelle possible, je veux dire celle qui opposerait l'envie et la jalousie. Comment définiriez-vous leurs différences ? On a parfois tendance à les rapprocher, peut-être à tort.
Dans les sept péchés capitaux, puisque l'envie est un péché capital, alors il faut entendre par capital, capitaine, c'est-à-dire qu'il est à la tête de... Et précisément, derrière lui, dans sa troupe, il y a la jalousie. Donc en ce sens, la jalousie est générée par l'envie. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'hypocrisie, il y a aussi la médisance, la calomnie, etc. etc.
hein. Est-ce qu'on pourrait dire que la jalousie, c'est la crainte de perdre ce qu'on détient et que l'envie ne possède pas le bien en question et ne supporte pas qu'un autre en jouisse ?
C'est une définition possible, effectivement, hein, puisque dans la jalousie, il y a la peur de la perte de l'objet aimé. Mais dans l'envie, il y a plutôt cette idée que je ne l'ai pas encore, l'objet. C'est l'autre qui l'a. Et donc si je veux prendre sa place, mais non, c'est même pas prendre sa place. Je voudrais le dégrader, je voudrais qu'il descende de là où il est pour venir à mon niveau et si possible un peu en dessous, ce qui est quand même plus confortable.
À telle enseigne que la jalousie d'ordinaire est plus avouée que ne l'est l'envie.
C'est-à-dire que la jalousie a effectivement quelque chose qui relève du caprice, donc de l'élégance, du raffinement, tandis que l'envie est bestiale. D'ailleurs, dans le texte de Marcel Aimé, il le dit bien, c'est un crocodile. Il insiste sur le fait que c'est une bête qui rampe sur le sol. Les caractéristiques de l'envie, c'est qu'elle occupe les airs, la terre et les mers. Et donc c'est à la fois un crocodile, une bête qui en général, rampe, parce que si elle se redressait, elle ne serait plus en vie. Elle pourrait être éventuellement l'élu de Dieu. Et puis enfin, c'est dans les airs, les harpies sont d'une certaine façon les figures, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les allégories de l'envie.
Le pasteur dont il s'agit conduit aussi à quelques réflexions. Le pasteur dans ce texte, c'est l'homme qui a des moutons éventuellement désirés.
Alors, je l'aurais interprété comme étant le pasteur, c'est-à-dire le berger, celui qui garde le troupeau. Et en ce sens, il a une fonction protectrice, et c'est-à-dire qu'il a une fonction d'amour. Il aime son troupeau. Et si une de ses brebis s'égare, il ira la chercher. Par contre, sa fille, lorsqu'elle surgit, celle-là est équivoque.
Elle a belle poitrine, comme aurait dit Homère.
Oui. Elle est ambiguë. Elle est ambiguë en ce sens que, d'une part, elle s'affirme comme belle, plus belle, la plus belle du monde. Donc, de ce point de vue, elle est atteinte par l'orgueil. Et d'autre part, elle se présente comme la fille du pasteur. Donc, elle devrait avoir sa bonté.
Alors, venons-en maintenant, André Rouche, à vos pères de l'Église. Vous mettez au premier rang, il faut dire qu'il est l'auteur de textes magnifiques pour notre sujet, l'envie. Évagre, le pontique qui a vécu au IVe siècle, il écrit ceci. L'envie est vêtement d'orgueil, dépouillement de l'humiliation, racine de calomnie, berlue de l'ardeur, feinte d'amitié, intimité trompeuse, haine de la charité, jalousie des gens de bonne réputation, combinaison de complots, sédition contre les gens prospères, moquerie des gens renommés, altération des yeux, reniement du Seigneur, trait du diable, crucifixion du corps, ruine de la vie, intellect entravé, aliénation du progrès, familiarité des obstacles. N'en jetez plus.
Effectivement, en quelques lignes, Évagre le Plantique réunit à peu près tout ce qui, au cours de l'histoire de l'Église, va définir l'envie comme péché capital. Donc il y aura la malveillance, la complaisance, la calomnie, la méchanceté, la traîtrise. Donc on les voit énoncés dans une langue plus parlée, plus directe, par Évagre le Pontique. Ce qui importe chez lui, c'est de dire que l'envie vient tout de suite après l'orgueil. Et que dans l'envie, il y a un péché d'une telle gravité qu'il envahit tous les autres. Autrement dit, il n'y a pas un seul des autres péchés qui va échapper à l'envie. Elle est capable de tous les brasser dans ses bras, les embrasser par conséquent, pour les jeter sur celui qui est atteint. Et pour Évagre le Pontique, l'envie, donc ce mauvais esprit, parce que on n'utilise pas forcément le mot péché, on peut utiliser celui de passion ou celui d'esprit.
D'ailleurs, c'est seulement Grégoire, si j'ai bien lu, Grégoire le Grand, qui inscrit l'envie parmi les péchés capitaux.
Voilà, et c'est lui qui fait la hiérarchie des péchés capitaux, exactement, donc au VIe siècle. Et chez Évagre, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il y a cette idée que l'envie pénètre par les sens. Donc il y a quelque chose de néoplatonicien, à savoir que ce sont les yeux et les oreilles qui sont en quelque sorte attaquées en premier. Mais elles ne sont pas totalement innocentes, car le pécheur va montrer une ouïe, donc une écoute complaisante à l'injure. Et de ce point de vue, il est déjà atteint, si j'ose dire, il est déjà contaminé. Ensuite, il y aura simplement une contamination supérieure qui sera comme une épidémie, si vous me permettez cette métaphore contemporaine sur l'épidémie.
Alors tous se réfèrent plus ou moins évidemment à la Bible, à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Il faut que nous nous attardions un instant sur les précédents que propose notamment la Genèse. Je vais vous faire écouter un extrait de la Genèse, chapitre 37, Joseph et ses frères, diffusé dans une série documentaire de Pascal Tison, qui était consacrée aux sept péchés capitaux. Les voilà, diffusés sur la RTBF en 2001. Salut à nos amis belges.
Joseph avait 17 ans. Il gardait le petit bétail avec ses frères, il était jeune, avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique à longues manches. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, devenu incapable de lui parler amicalement. Or Joseph eut un songe, et il en fit part à ses frères. Il leur dit : Écoutez le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et ils se prosternèrent devant ma gerbe. Ses frères lui répondirent : Voudrais-tu donc régner sur nous en roi, ou bien nous dominer en maître ? Et ils le haïrent encore plus, à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit : J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta cela à son père et à ses frères, mais son père le gronda et lui dit : En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ? Son père gardait la chose dans sa mémoire.
André Rouche.
J'aime beaucoup le texte tel qu'il est lu, parce qu'il insiste sur le fait que Joseph n'est pas tout à fait simple. Il y a chez lui une part d'orgueil, et il la tire du fait qu'il n'est peut-être pas le plus beau, mais le plus aimé du père. Or, précisément, l'envie se tourne vers celui qui bénéficie de l'amour paternel, en l'occurrence. Et plus précisément, ensuite, il insiste sur le fait que, dans son rêve, Joseph voit ses gerbes qui se dressent vers le ciel.
Donc, les gerbes comme métaphore.
C'est cela, oui. Alors que les autres s'inclinent. Et de ce point de vue, il y a de l'envie aussi, un peu, chez Joseph, puisqu'il aimerait que les autres l'honorent. Le reconnaissent. Alors, il fait partie de, dans l'Ancien Testament, de tous ceux qui sont, en quelque sorte, qui ont chuté après avoir été envieux. Donc,
pour Joseph, les choses se terminent mal.
Il est vendu par ses frères parce qu'ils sont envieux de lui, puisque précisément il est le plus aimé du père. Et ensuite, pour dissimuler leurs crimes, eh bien, ils vont prendre les vêtements et les jeter, je crois, dans un puits ou quelque chose de cet ordre-là. Il n'est pas le seul, il y a aussi Abel.
Et Caïn.
Abel, il est l'élu de Dieu. Et son frère Caïn, qui est l'aîné, va commettre ce qu'on appelle le premier homicide.
Cet homicide est un fratricide.
Et ensuite, il y a aussi la victoire de David sur Goliath, qui va affliger le roi Saül, ou Saul, qui est tenté de le tuer. Bon, et puis il y a aussi le fils d'Isaac et de Rebecca, Jacob, qui est envié par son frère jumeau Ésaü, etc., etc. Donc, l'Ancien Testament nous donne une quantité d'exemples de fratricides lorsque l'aîné, celui qui a le droit sur l'ensemble de la famille, donc sur l'ensemble de la fratrie, se voit en quelque sorte privé de ce qu'il considère comme lui étant dû et qui par conséquent entre dans l'envie.
Les théologiens du Moyen-Âge ont continué de s'en mêler beaucoup. On peut citer diverses disputes entre eux sur la nature de l'envie, en arrivant d'ailleurs à saint Thomas d'Aquin, à Thomas d'Aquin.
Ce qu'il montre, c'est une sorte de genèse de l'envie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Dans une première étape, il y a le regard, dans une deuxième étape, il y a les paroles, et puis dans une troisième étape, il y a le crime. Donc l'envie ici est susceptible d'être en crescendo. Mais celui qui me paraît le plus intéressant, c'est Abélard. Il a été l'élève d'un très grand théologien.
Là, on est à cheval entre le 11e et le 12e siècle.
Il meurt, je crois, en 1142, et il suit les cours de Guillaume de Champeau. Et il reconnaît dans ce professeur de l'école cathédrale de Paris son maître principal. C'est comme ça qu'il le dit. Mais assez rapidement, Abélard, parce qu'il est brillant sans doute, du moins le dit-il, il va devenir très incommode. Et la rivalité va s'établir entre son maître et lui, l'élève. Et dans cette rivalité, le maître dit Abélard, écrit Abélard dans « L'histoire de mes malheurs », qui est écrite en 1132. Dans ce texte, il montre que Guillaume de Champeau, qui est animé par l'envie, va de façon tout à fait masquée chercher à l'écarter. Autrement dit, l'envie que décrit Abélard, c'est non pas la lutte dialectique, autrement dit argument contre argument, c'est la lutte qui supprime celui qui maintient la dialectique et qui l'écarte, qui le chasse. Et donc Abélard va quitter l'ensemble des disciples de son maître pour s'établir plus loin. Autrement dit, ici, il y a cette idée que l'envie est une passion qui abandonne la charité et la foi et qui, cette fois-ci, vise la renommée. C'est la renommée, celle de son maître, qui est en jeu. La renommée qui est une forme de l'orgueil, non ?
Un peu plus d'un siècle plus tard, Thomas d'Aquin réfléchit aussi à l'envie et il le voit comme un mal qui progresse avec un début, un milieu et un terme. Au début, on s'efforce d'amoindrir la gloire d'autrui, secrètement, ou par des insinuations malveillantes, ou bien distinctement, par des propos de diffamation. Ça, c'est le premier temps. Le second temps, au milieu, si l'attaque réussit, c'est la jubilation de voir l'autre enlisé dans ses tourments. C'est toujours saint Thomas d'Aquin que je cite, que j'évoque. Et puis au terme, surgit la haine. C'est l'ultime étape du péché.
Effectivement. Donc la première étape, c'est celle de la dégradation. Faire en sorte que l'autre redescende. La deuxième étape, c'est ce qu'on pourrait appeler la ruse, l'hypocrisie, la malveillance. Et puis la troisième étape, lorsque effectivement la colère s'allie à l'envie, il y a le désir de le détruire, c'est-à-dire le crime.
On doit lire naturellement la place de l'envie dans ce Moyen-Âge, dans les images. Comme dans les textes littéraires. Il y a Dante d'un côté, et puis les fresques que vous évoquez dans votre livre, André Rouche, de façon tout à fait éclairante.
Effectivement, ce qui m'a intéressé dans ce travail, et qui en fait un travail plutôt dit historique que philosophique, c'est qu'il y a d'une part les représentations, celles dont nous venons de parler il y a un instant, et puis il y a d'autre part les imaginaires. Autrement dit, toute cette part de figures, d'images, qui apparaissent dans les peintures murales, dans les mosaïques, dans les vitraux, dans les tapisseries, etc. En général, sur les lieux de prière.
Au fronton des cathédrales, parfois.
Oui, les images du châtiment. Alors, évidemment, elles sont présentes sur les lieux de culte, donc les cathédrales, par exemple, les églises, mais elles sont aussi présentes, en particulier, au Camposanto de Pise, c'est-à-dire au cimetière, avec le jugement dernier, auquel Jérôme Bachet a consacré de très belles pages. Et qu'est-ce qui apparaît ? Trois choses. La première, c'est que le pécheur, c'est quelqu'un qui est privé de beauté. Et donc, tous ces damnés vont apparaître dans leur laideur. Et dans cette laideur, il y a le fait qu'ils ont les yeux, en général, qui louchent, ou les bouches qui sont biaisées, ou les visages qui sont crispés. Et puis, d'autre part, apparaissent aussi tous les châtiments qui les attendent dans l'au-delà. Par exemple, celui qui a calomnié ou qui a médit, donc qui a commis le péché de langue, eh bien, il sera pendu par la langue. Celui qui a commis des péchés d'écoute, donc qui a été curieux, indiscret, qui a prêté une oreille malveillante, il sera pendu par l'oreille. Et de même pour les yeux, etc., etc. C'est cet aspect-là que je retiendrai. Et alors peut-être que dans la chapelle Scroveni à l'église de l'Arena à Padoue, je ferai une part un peu plus importante à cette œuvre de Giotto, que je crois que Giotto di Bondone. Il y a une femme qui s'avance, son corps est décharné, donc décharné ça veut dire qu'elle n'a plus la chair que donne la création, et d'autre part, elle a une langue fourchue, et cette langue fourchue, celle de la médisance, se retourne contre elle, parce que c'est précisément la caractéristique de l'envie, c'est qu'elle crée de l'aigreur chez l'envieux. Elle n'attaque pas seulement celui qui l'envie, elle... Ensuite, dans un deuxième temps, elle vient l'attaquer lui-même et créer ceci. On ajoutera que dans cette œuvre absolument magnifique, cette femme s'avance et qu'il y a des flammes qui sont en train de lui griller les pieds. Et dans ces flammes, est-ce que c'est la passion ou est-ce que c'est la punition ou le châtiment final? Le spectateur jugera.
Le jugement est moins incertain quand on se tourne vers la littérature, en particulier vers Dante. Qui évoque ce voyage au champ 13 du purgatoire. Il est accompagné de Virgile et il rencontre des envieux. Il nous dit « J'ouvris plus grand les yeux, regardai devant moi et vis des ombres avec des manteaux couleur de la pierre. » C'est toujours le gris d'ailleurs qui domine, puisque pour en revenir au chromatisme.
Alors effectivement, il y a chez Dante, un peu comme chez Marcel Aimé tout à l'heure, hein, une description des péchés qui restera un joyau de l'histoire. Et lorsqu'il arrive à la deuxième corniche, il voit les envieux et ils ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est que effectivement, ils sont vêtus de vêtements sombres. C'est l'obscurité dont parlait tout à l'heure Marcel Aimé. Et d'autre part, il s'adosse à la muraille qui elle-même est grise, la couleur de la pierre. Comme vous le savez, la pierre, elle n'est pas féconde. La pierre ne génère pas de fruits, ne génère pas de vie. Et puis enfin, ils sont tellement atteints qu'ils sont obligés de se tenir les uns aux autres. Car l'envieux, c'est quelqu'un qui manque de force. Il avoue son impuissance. C'est pour ça qu'il veut dégrader celui qu'il envie.
Et il l'avoue à d'autres.
En l'occurrence, ici, ils se soutiennent les uns les autres, effectivement. C'est véritablement une figuration, une description qui est davantage tournée vers nos imaginaires encore que vers les représentations.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il faut que nous avancions dans cette conversation consacrée à l'envie, l'envie dévorante à travers les siècles. Nous nous en venions au XVIIe siècle, puisque vous discernez, André Rauch, là, une évolution intéressante. On est moins à l'intérieur des relations entre l'individu et Dieu que dans les relations des hommes entre eux, en particulier à la cour des rois. Pour ouvrir ce moment de notre dialogue, écoutez cet extrait du Misanthrope, 1666, l'acte 2, scène 1. Et c'est un dialogue entre Alceste et Célimène qui était ici diffusé dans le Gai Savoir de Raphaël Antoven sur France Culture le 15 juin 2014.
Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elles, dans mon cœur, trop de bile s'assemble. Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons, indubitablement. Et je vous promettrai mille fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire.
C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi.
Je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder. Et mon cœur de cela ne peut s'accommoder.
Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors?
Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ceux qu'attirent vos yeux. Et sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leurs assiduités, et votre complaisance un peu moins étendue de tant de soupirants chasserait la cohue. Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre clitandre a l'heure de vous plaire si fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit? Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer? L'amas de ses rubans a-t-il su vous charmer? Est-ce par les tapas de sa vaste ringrave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Ou sa façon de rire et son ton de fausset ont-ils de vous toucher su trouver le secret?
Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis.
Perdez votre procès, madame, avec constance. Et ne ménagez point un rival qui m'offense.
Une note en bas de page, d'abord, André Rauch. Ringrave, canon, de quoi s'agit-il?
Ringrave, c'est une sorte de jupe-culotte au masculin, qui en général est entourée par un ruban à la jambe.
C'est le temps des rubans. Et l'homme au ruban vert, c'est Alceste.
Oui, exactement, voilà, ouais. Et le canon, c'est la partie de ce ringrave qui est une sorte de dentelle. Et c'est une époque où, effectivement, la dentelle était essentielle dans le vêtement
alors,
de la cour.
Que nous apprend ce dialogue du point de vue qui nous occupe, l'histoire de l'envie?
Je retiendrai d'abord que Alceste est bilieux. Cette fois-ci, ce n'est plus un esprit qui vient l'attaquer, c'est plus un démon. C'est en quelque sorte l'organique qui, chez lui, s'est emparé de sa passion.
L'intrabilaire amoureux, c'est le sous-titre
de l'œuvre, oui, effectivement. Donc, c'est quelque chose qui est hérité vraisemblablement de Descartes, car Molière a une connaissance très affinée de Descartes et du mécanisme de Descartes, et évidemment de la théorie des humeurs de Descartes. Et donc, Alceste est tout à coup envahi par la bile. Et il y a une deuxième chose sur laquelle je m'arrêterai, c'est que c'est un querelleur. Autrement dit, l'envieux est quelqu'un qui cherche querelle. Il n'aime pas la paix, il n'aime pas l'amour. Ce qu'il veut, c'est faire du mal et donc quereller, créer la tension, créer la guerre.
C'est pour me quereller donc à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi.
Voilà, oui. Troisième aspect, il lui dit que elle a du cœur pour d'autres. Autrement dit, on est cette fois-ci non plus seulement dans l'envie telle que nous l'avons décrite jusqu'ici, on est aussi dans la jalousie.
On les retrouve, ces deux péchés.
On les retrouve d'autant plus que dans une civilisation où les civilités sont importantes, l'envie apparaîtrait trop bestiale. D'ailleurs, c'est une bête. Hein. Alors que la jalousie a plus de raffinement, elle a aussi plus de souplesse, elle a aussi plus d'hypocrisie.
Elle est moins cachée.
Elle est cachée différemment. Elle est cachée sur le mode de la civilité, du savoir-faire. Elle a, de ce point de vue, acquis la politesse et la courtoisie. On n'est plus dans un affrontement qui serait un affrontement, en quelque sorte, physique, tel qu'il peut exister quelques siècles auparavant. Et puis, je retiendrai enfin cette idée que l'envie renverse les positions. Autrement dit, lui, il l'accuse, elle, de séduire, alors que c'est lui qui lui cherche querelle. En ce sens, l'envieux a cet art de culpabiliser l'autre, le mot culpabiliser ne serait pas d'époque, de telle sorte que la situation se renverse et qu'il apparaisse comme une pauvre victime, et non pas comme quelqu'un qui veut du mal.
Vous évoquez Descartes, André Roche. Que nous dit-il sur l'envie?
Descartes, dans cette première moitié du XVIIe siècle, a deux qualités essentielles. La première, c'est qu'il s'inscrit dans une étude des passions qui est d'ordre psychologique. Et de ce point de vue, on n'est plus dans la morale et on n'est pas non plus dans le registre de la foi. Premier aspect. Puis deuxième aspect, contrairement à ses contemporains, il est le premier qui considère que ce n'est pas l'esprit, l'âme, qui vient projeter l'envie sur le corps, que c'est l'inverse. Autrement dit, que c'est le corps qui, tout à coup, est tellement envahi de la passion qu'il génère cette aigreur dont nous parle Alceste.
On quitte le diable.
Exactement. On a quitté le diable, mais par rapport à ses contemporains, il va inverser la manœuvre. Autrement dit, ce ne sont pas les sentiments de l'âme, de la pensée, de l'esprit, c'est l'organique qui ici l'emporte et est en premier. Et
c'est à partir de ce XVIIe siècle qu'on voit s'opérer un glissement, en particulier dans l'attitude des libertins qui commencent à se demander s'il faut vraiment condamner la passion d'envie. On en arrive à l'opposition que vous résumez dans votre livre, André Roche, entre Sade d'un côté et Casanova de l'autre.
Dans les propos des libertins, j'ai retenu trois modèles, mais d'autres sont possibles.
Lesquels? Hein.
Le premier, c'est les liaisons dangereuses, donc c'est la correspondance que Choderlos de Laclos présente dans cette œuvre. Le deuxième, c'est l'histoire de ma vie de Casanova, qui est écrite entre 1789 et 1798 à peu près. Et le troisième auteur, le plus radical, celui qui va philosophiquement au fond des choses, c'est le Marquis de Sade.
Comment les situez-vous par rapport à ce thème de l'envie?
Le premier, donc la correspondance qu'entretiennent le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil dans les liaisons dangereuses, c'est que pour eux, l'envie est féconde. C'est-à-dire que c'est en créant l'envie, en créant la jalousie, que l'autre va découvrir la passion. Ce que leurs contemporains, les encyclopédistes, ont voulu éteindre en disant que la raison va, d'une certaine manière, dans le monde, rétablir les équilibres et en particulier la paix. Or, précisément, les liaisons dangereuses nous montrent un autre aspect, à savoir que pour réveiller la passion, pour réveiller les passions, il faut de l'envie.
Et le désir.
Et bien sûr, le désir. Alors, j'avais relevé en particulier, sous la plume de la marquise de Merteuil, ce passage. Elle parle évidemment du chevalier Danceny, qui est bon un peu naïf, disons. De ce point de vue, il ne connaît ni l'envie, ni le désir. « Il m'appellerait perfide, et ce mot de perfide m'a toujours fait plaisir, » écrit-elle. « C'est après celui de cruel, le plus doux à l'oreille d'une femme. » Et il est moins pénible à mériter. Donc en ce sens, il y a énormément de malice, mais il faut savoir que cette malice, qui est une fille de l'envie, elle a pour fonction de démystifier. Et en ce sens, le dialogue va se poursuivre à propos de la présidente de Tourvel, et ce qu'attaque le vicomte de Valmont chez elle, c'est sa dévotion. C'est-à-dire que son amour conjugal, ses principes austères, d'une certaine manière, l'empêchent de vivre la passion. Et en ce sens, il s'attaque à ce qu'il y a de plus sacré, à savoir la dévotion, c'est-à-dire la croyance, la foi.
Le moment où Valmont se saisit de Cécile aux dépens de Danceny est aussi révélateur.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Alors Casanova, c'est différent. Lui, il rejette l'idée d'envie, au fond.
Premièrement, il dit « j'en ai pas besoin pour prendre mon plaisir ». Autrement dit, chez lui, ce qui domine, ce n'est pas ni la foi, ni la morale, c'est l'esthétique.
Sauf l'envie au sens de désir, mais ce n'est pas notre sujet.
C'est un autre usage de la langue qui consiste à confondre l'envie et le désir. Et d'autre part, lui juge que l'envie, elle est parasite, elle l'empêche de jouir. Et en ce sens, il considère qu'il vaut mieux la mettre de côté, et en particulier, plutôt que de prononcer des paroles amoureuses, des promesses ou éternelles ou perpétuelles, il donne à son amante quelques doublons, et elle les appréciera plus que toutes ses promesses. Donc en ce sens, il y a chez Casanova le passage de la morale à l'esthétique.
Et Sade alors ?
Sade que j'ai découvert grâce à la très belle exposition qu'avait faite Annie Lebrun à Orsay il y a quelques années. Et chez Sade, il y a cette idée que, à l'origine, au départ, il n'y a pas la bonté, comme le croyaient les pères du désert, par exemple, mais aussi les pères de l'Église, etc. Il n'y a pas l'amour. Au départ, il y a précisément l'envie, c'est-à-dire la cruauté. Ce qu'il y a chez Sade de plus radical, c'est que précisément il cherche dans le crime, dans les passions les plus extrêmes, la férocité, la cruauté. Il dit c'est là qu'est fondamentalement notre instinct de vie. Cet instinct, eh bien, comme il est dangereux, aussi bien les religions que les sociétés, que la morale ont cherché précisément à l'éteindre, à faire en sorte que ça n'apparaisse pas. Et c'est ça ce qu'il y a vraisemblablement chez Sade de plus, à la fois de plus odieux et en même temps de plus génial, c'est que il a renversé, alors je ne dirais pas renversé la table, il a renversé le monde en donnant précisément à l'envie le premier rôle. Et de ce point de vue, les vertus sont quand même un peu pâles. Alors il utilise un mot que peut-être aujourd'hui on n'aimerait pas, il dit qu'elles sont efféminées, pour bien montrer la cruauté de l'envie.
On ne s'étonne pas dans ces conditions que les philosophes se soient beaucoup mêlés de réfléchir à la question de l'envie. Je pense au premier chef, au fameux Bernard de Mandeville, ce médecin hollandais installé en Angleterre, qui en 1714 publie la fameuse « Fable des abeilles ». Chaque insecte étant mu par des soucis égoïstes et l'ensemble faisant finalement une société harmonieuse. Écoutons-le. C'est un extrait diffusé dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance de Raphaël Antoven sur France Culture, le 14 septembre de l'an de grâce 2009.
Quittez donc vos plaintes, mortels insensés. En vain vous cherchez à associer la grandeur d'une nation avec la probité. Il n'y a que les fous qui puissent se flatter de jouir des agréments et des convenances de la terre, d'être renommés dans la guerre, de vivre bien à son aise et d'être en même temps vertueux. Abandonnez ces vaines chimères. Il faut que la fraude, le luxe et la vanité subsistent si nous voulons en retirer les doux fruits. La faim est sans doute une incommodité affreuse, mais comment sans elle pourrait se faire la digestion, d'où dépend notre nutrition et notre accroissement? Ne devons-nous pas le vin, cette excellente liqueur, à une plante dont le bois est maigre, laid et tortueux? Tandis que ces rejetons négligés sont laissés sur la plante, ils s'étouffent les uns les autres et deviennent des sarments inutiles. Mais si ces branches sont étayées et taillées, bientôt devenues fécondes, elles nous font part du plus excellent des fruits. C'est ainsi que l'on trouve le vice avantageux lorsque la justice l'émonde, en ôte l'excès et le lie. Que dis-je ? Le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une nation célèbre et glorieuse.
L'idée, André Rauch, de l'envie comme passion utile se retrouve parfois chez les philosophes. Voltaire est à la fois très sévère pour tel personnage qu'il appelle l'envieux dans Zadig, et en même temps, il nous dit que l'envie est aussi naturelle à l'homme que la faim et la soif, et que ce peut être une passion utile et innovante.
Effectivement, dans les questions sur l'encyclopédie qui paraissent en 1771, Voltaire se réfère à l'œuvre de Mandeville et considère que l'envie est une passion très utile. Je reviens peut-être quelques instants sur Mandeville lui-même.
Je vous en prie.
Il est la référence qui va dominer à la fois le XVIIIe siècle, Voltaire s'y réfère, Montesquieu aussi, mais le XIXe siècle, y compris Tocqueville, et puis Karl Marx, et vraisemblablement encore le XXe. L'idée principale de Mandeville, c'est que une nation qui veut prospérer, une nation qui veut s'enrichir, elle s'enrichit à partir de ses vices, c'est-à-dire à partir de l'envie. Et de ce point de vue, il y a une très belle image que nous venons d'entendre à l'instant, à savoir que l'envie est aussi nécessaire au succès des nations, à leur prospérité, que la faim est nécessaire à la digestion. En ce sens, il fait de l'envie ce qu'on pourrait appeler tout simplement un besoin premier. Ça fait partie de ce qui constitue l'essence même de la vie.
Donc il l'arrache à la morale.
Il l'arrache totalement à la morale, il la rattache davantage à l'empirisme, c'est-à-dire au jeu des sensations. Et de ce point de vue, il explique que quelqu'un qui marche peut envier quelqu'un d'autre qui est dans un carrosse à 6 chevaux, il sera moins envieux que celui qui a 4 chevaux. Parce que celui qui est dans un carrosse à 4 chevaux, il est plus proche de celui qui l'envie. Donc en ce sens, il y a cette idée propre aux empiristes, à savoir que il y a une sorte de relativité entre les passions. Et c'est cela qui va faire la richesse de Mandeville. Et en particulier, il va s'opposer à un certain nombre d'encyclopédistes sur la question du luxe. Car lui estime que le luxe non seulement est nécessaire, mais que c'est grâce au luxe qu'il y a des emplois dans le royaume. Car un homme qui est capricieux, qui est luxueux, va faire travailler des architectes, des menuisiers, des couturiers, etc., etc.
Grand sujet de débat, le luxe entre les encyclopédistes. Il faut revoir l'entrée dans la grande encyclopédie de D'Alembert et Diderot.
Exactement. Et de ce point de vue, Mandeville joue un rôle de premier plan dans cette querelle.
Une date est, comme si souvent, essentielle, André Rauch, dans l'histoire de l'envie dans la société, notamment française, c'est évidemment la Révolution. Parce que on peut penser que l'égalité enflamme l'envie. Et que, comme le dit Tocqueville...
L'amour de l'égalité est la passion principale qui agite les hommes.
J'étais sûr que vous le saviez par cœur.
Tocqueville insiste sur le fait que dans une société inégale, autrement dit, là où certains ont un statut qui est établi, d'autres qui ont un statut certes inférieur, mais qui ne peut pas changer non plus, les plus grandes inégalités apparaissent d'une certaine façon comme acceptables, disons naturelles. En revanche, dès que l'égalité est déclarée, chacun d'entre nous, chaque citoyen va surveiller ses concitoyens pour savoir s'ils sont tous égaux.
La passion d'égalité pénètre de toutes parts dans le cœur humain, elle s'y étend et elle le remplit tout entier, dit Tocqueville.
Et c'est bien sûr l'envie qui ici va trouver son foyer principal, puisque à tout instant, chacun d'entre nous peut trouver quelqu'un d'autre qui, par un petit excès, mérite d'être envié. Et en ce sens, l'égalité de tous est un foyer d'envie.
On ne s'étonne pas dès lors que le 19e siècle connaisse une efflorescence de grandes œuvres littéraires où l'envie joue un rôle essentiel et vous vous y arrêtez naturellement, fréquemment, André Rauch.
Oui, effectivement, au 19e siècle, il y a bien sûr le texte de Balzac, le curé de Tours, avec Birotteau et Troubert qui guettent. Disons, je ne sais pas s'il guette sa mort ou s'il guette son logement, mais les deux sans doute. Et dans leur envie, Balzac écrit à propos de Birotteau, qui va évidemment être le perdant des deux, « Il ne l'aurait peut-être pas ressuscité, mais il le pleura ». Alors il y a par ailleurs le roman de Stendhal, « Le rouge et le noir », avec Monsieur de Rênal, qui est maire de Verrières et qui souhaite avoir des envieux autour de lui. Et donc il va
prendre un précepteur.
Bien sûr.
Pour soi, oui. Enfin, Julien Sorel.
Il y a aussi, plus tragique cette fois-ci, le roman d'Emma Bovary, qui, dans sa nostalgie créée par ses lectures lorsqu'elle était enfant...
Le ressort de l'envie est fondamental dans l'histoire de Madame Bovary.
Et elle conduit, évidemment, à sa mort. Et puis il y a enfin Zola, avec Les Lorieux. Alors là, c'est génial chez Zola, parce que Les Lorieux avaient une drôle de tête. Il y avait une sorte d'instinct mauvais qui habitait leur corps. Ça se voyait, quoi. Leur tête avait une forme étrange. Et ils montrent qu'ils étaient tellement envieux qu'ils n'arrivaient pas à se contenir. Dans la bourgeoisie, on apprend à se tenir. Et ceux-là ne pouvaient pas se contenir. C'est encore plus important que de se retenir. Ils ne pouvaient pas contenir la passion qui les occupait.
Avec toujours cette idée qui remonte au Moyen-Âge que l'envie se lit sur les visages, marque les corps, déforme les comportements.
Ils louchaient, ils avaient le bec de travers.
Et voilà.
À cela s'ajoute, mais un peu plus tard, à la fin du 19e et sans doute plutôt au début du 20e siècle, ce très très beau roman « Billy Budd, marin » de Herman Melville, qui paraît seulement en 1924. C'est le dernier texte de Melville et il a inspiré un opéra qui est celui de Benjamin Britten. Dans cet opéra, il y a précisément la clé du roman de Melville. Dans le roman, il y a un dénommé John Clagar.
Tourmenté par l'envie.
Chez Clagar, c'est à la fois de l'ordre du physique, mais c'est surtout de l'ordre de l'inconscient.
Il y a des tortures morales.
Dans ce roman qui apparaît au début de la psychanalyse, il y a toutes les idées. Je ne pense pas que Melville ait une connaissance approfondie ou ait fait une recherche approfondie sur la psychologie des profondeurs, mais il est de ce point de vue un témoignage, et un témoignage terrible, parce qu'il nous montre à quel point ce Clagar à la fois admire le marin qu'est Billy Budd, peut-être l'aime-t-il, un amour interdit, homosexuel, et sans doute cela génère-t-il chez lui cette haine qui va le conduire à le dégrader, c'est-à-dire à le détruire.
Il faut que nous achevions notre conversation en évoquant ce qu'on peut appeler l'envie collective, c'est-à-dire le ressentiment généralisé, ce qui conduit éventuellement au racisme et au nationalisme, ce qui ne nous éloigne pas malheureusement de notre actualité.
Il y a peut-être deux éléments qui peuvent être éclairés par cette histoire de l'envie. Le premier, c'est que dans le ressentiment dont Nietzsche a parlé, sur lequel Nietzsche a beaucoup écrit...
Dans l'humain, trop humain en particulier.
Entre autres, oui, et généalogie de la morale. Il y a cette idée que l'homme du ressentiment est quelqu'un qui agit dans le silence, qui, d'une certaine manière, ne dit rien, mais n'oubliera pas. Il ne faut pas oublier. Et donc, le ressentiment est ce comportement, appelons-le mental, qui consiste sans cesse à revenir à un passé où une blessure réelle ou supposée va inspirer le présent. Et donc, l'homme du ressentiment est la personne qui guette ce qui, à tout moment, peut générer chez lui ce retour au passé.
Le secret est marié à la rancune.
Exactement, oui. Et c'est cette passion qui va alimenter la littérature de Drummond, entre autres.
Drummond est l'auteur de La France juive.
Oui, et qu'a très très bien étudié Gérard Noiriel dans Le venin et dans la plume. C'est un livre absolument admirable où il montre que chez Drummond, il y a en quelque sorte une grammaire de l'antisémitisme, du racisme, et qui sera reprise jusqu'à aujourd'hui dans les propos à propos des musulmans, des arabes, ou dans les propos qui récemment sont apparus à l'égard, au moment de l'apparition de la Covid, lorsque dans certains quartiers parisiens, on s'en est pris aux Asiatiques, parce que non seulement ils nous prennent notre argent, puisqu'ils sont parfois commerçants, mais en plus, ils nous apportent le mal. Vous voyez, cette idée a circulé. Alors, il y a un deuxième volet, si j'ose dire.
De l'actualité du sujet.
De l'actualité du sujet, qui porte dans le harcèlement.
En quoi cela ?
Alors, effectivement, dans le harcèlement, que se passe-t-il ? Le harceleur est quelqu'un qui cherche à dégrader celui qu'il harcèle. Autrement dit, il cherche à faire en sorte qu'il perde à la fois sa dignité, son confort, son assurance de soi, etc. Et en particulier, nous avons tout récemment, à Mulhouse, une jeune fille qui a subi ce qu'on appelle, elle s'appelle Dina, du cyberharcèlement. Alors, l'enquête est en cours, bien sûr, mais que se passe-t-il ? Très souvent, il s'agit d'une jeune fille qui, à l'intérieur de son collège, est sans doute une personne qui a de bons résultats, mais surtout qui est aimée soit de son professeur, soit etc.
Et c'est là que surgit l'envie.
Et c'est là que surgit l'envie. Et l'envie consiste, en particulier dans le cyberharcèlement, consiste à aller chercher dans les confidences que la personne a faites d'elle-même, donc ce qui permet d'accéder cette fois-ci à l'intime,
Grâce aux nouvelles technologies qui changent beaucoup la donne.
Et qui multiplient, etc. Donc, l'envie ici dispose, j'allais dire, d'un matériau considérable et qui, précisément, va avoir l'effet destructeur. Si vous regardez le Wikipédia cyberharcèlement, il y a cette histoire de d'une jeune fille qui était effectivement la plus aimée de la classe, qui était la plus brillante de la classe et auprès de laquelle les harceleurs vont petit à petit dévoiler les confidences qu'elle a pu faire à ce qu'on appelle des followers, donc on peut traduire par suiveurs, et dans ce contexte, elle va se culpabiliser elle-même d'avoir fait les confidences. L'envie a cet art de permettre à celui qui est le coupable, de faire en sorte que ce soit sa victime qui se sente coupable.
Art diabolique, auraient dit les pères de l'Église.
Exactement.
Alors, il y a un dernier aspect de la société contemporaine qui ramène plutôt au thème de l'envie comme désir, c'est l'émergence de la société de consommation, avec ce livre immortel de Georges Perec qui s'appelait « Les choses », qui remonte à 1965, avec ces deux personnages qui dont le métier est précisément de faire des enquêtes d'opinion sur la consommation des ménages et qui sont pris eux-mêmes au piège. Ils s'appellent Jérôme et Sylvie.
Effectivement, le texte, qui aujourd'hui peut nous paraître un peu lointain, mais qui a une actualité, en ce sens qu'il éclaire l'envie que génère la société de consommation. Car dans la société de consommation, chacun d'entre nous, puisque nous en faisons partie, chacun d'entre nous désire une nouvelle chose, donc ce qu'on peut appeler le dernier cri, dans une formule un peu passée aujourd'hui. Et au moment de l'acquisition de ce dernier cri, il y en aura un autre. Et donc la société de consommation vit sur précisément cette déception ou cette insatisfaction permanente qui l'enrichit, la société de consommation, mais qui rend le consommateur toujours à la course de son nombre.
Eh bien, André Roche, vous allez entendre précisément Arletty de 1934 qui s'appelle « Ah, le joli jeu », extrait d'une opérette qui s'appelait « Le bonheur, mesdames ».
Bien que pas méchante, je vous jure, j'ai une très drôle de nature. Quand je vois quelqu'un ravi d'avoir une chose, j'en ai envie. C'est une dame dans une boutique qu'on fait un coupon, je tique. Je tique aussitôt dessus, à tout prix je veux ce tissu. Et le lui soufflant d'un petit geste adroit, je dis au vendeur, enveloppez-le-moi. C'est un petit jeu charmant de chipper savamment ce qu'une autre désire, avec le sourire et sans qu'elle ose rien dire. C'est un délicieux moment et mon cœur follement se met à battre plus vite, tellement ça m'excite. C'est un petit jeu charmant. Bien que je n'aime pas faire de crasse, le bonheur des autres m'agace. Je peux pas faire deux amoureux, ceux qui s'adorent et qui sont heureux. Si devant moi ils s'embrassent, une envie folle me passe. Et je n'ai plus qu'un souci, c'est que le mari m'embrasse aussi. Vous devez penser, c'est une manie. Non, toutes sont comme moi, seulement moi, je le dis. C'est un petit jeu charmant de prendre comme amant un mari qui n'est pas le vôtre. Le bonheur des autres, je m'y plonge et je m'y vautre. Oui, c'est un raffinement, ça donne du piment qui fait que la vie serre. Et moi, terre à terre, c'est un petit jeu charmant.
Je rappelle le titre, André Rouge, de votre beau livre qui s'appelle « L'envie, une passion tourmentée », Champvallon, octobre 2021. Vous vous situez dans la ligne de l'œuvre magnifique d'Alain Corbin.
Oui, bien sûr.
Il vous a encouragé à travailler là-dessus ?
Il m'a défié, en ce sens que j'avais fait précédemment deux livres sur les passions ou les péchés capitaux. C'était « La paresse et la luxure ». Et l'envie a cette caractéristique, elle n'est jamais satisfaite. Alors que les deux autres peuvent, à certains moments, avoir leur satisfaction.
Donc, c'est la dernière de ces passions ?
Je crois que d'autres sujets me tentent, j'allais dire me passionnent, mais pourquoi pas.
Je voudrais rendre hommage aussi à un livre très utile, nous n'avons pas parlé de la psychanalyse, qui est un des éléments nouveaux d'interprétation de l'envie dans notre 20e et 21e siècle, le livre de Nicole Jamet, qui est psychothérapeute, qui s'appelait « Le plaisir et le péché, essai sur l'envie », paru chez Desclée de Brouwer en 1998. Et puis vous tenez à ce que je rends hommage aussi au livre d'Helmut Schoeck, « L'envie, une histoire du mal », qui est paru en 1998 aux Belles Lettres.
Effectivement, c'est un livre très très important. Le titre en allemand est un peu différent. C'est « Eine Theorie der Gesellschaft », c'est-à-dire une théorie de la sociabilité ou de la société, qui reflète davantage le sens de ce très très beau texte, oui. Qui apporte à la fois une réflexion historique et philosophique sur Neid, donc sur l'envie. Neid, c'est l'envie en allemand.
Vous trouverez les références des documents sonores que nous avons utilisés sur notre site. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission, vous le savez.
Tout me fait envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Tout me fait envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Paris, tu proposes, tu exposes trop de choses. Jolie bagatelle, étincelle qui m'appelle. Je ne sais laquelle est la plus belle.
Et sur le fond d'une chanson de Noura, la chanteuse algérienne, qui s'intitulait Paris dans mon sac, une chanson de désir, une chanson d'envie, une chanson de 1965, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Christophe Michou, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delavaux. Et j'ai plaisir à remercier régulièrement la documentation et la bibliothèque de Radio France qui nous apportent un soutien précieux.
Venir chez nous, jolie bagatelle, étincelle, m'en sorcelle. Je ne sais laquelle est la plus belle. Puisque celui pour qui j'ai mis tout Paris dans mon sac, et puisque celui pour qui j'ai mis tout Paris dans mon sac, c'est qu'à ma manière j'exagère pour lui plaire. Jolie bagatelle qui m'appelle, m'en sorcelle, faites-moi plus belle, bien plus belle. La 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 la